Bonjour, soyez les bienvenus dans ce lieu. On est heureux de pouvoir vous accueillir pour partager ces instants sous le regard de notre Dieu. Nous avons chanté des cantiques qui nous présentent l'œuvre de Dieu, qui nous amènent à peut-être nous interroger sur l'amour. Et plaise à Dieu qu'au travers de ces textes que nous allons lire et de ce partage, nous puissions ensemble grandir dans cette connaissance et parvenir à rencontrer Jésus-Christ. On va faire trois lectures. On va commencer par l'évangile de Marc au chapitre 2. Et on va lire les 12 premiers versets. Nous lisons, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le peuple, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. On fait également une lecture dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4. Matthieu, chapitre 4, verset 12. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vient demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et nous allons faire une dernière lecture dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 9, la fin du chapitre 8. C'est cette prophétie que nous venons de lire dans l'évangile de Matthieu. Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Nous lisons, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Amen. Trois textes qui se regroupent et nous allons voir ensemble dans quel domaine. Ce que nous avons lu dans Marc, et ça va être notre texte de référence cet après-midi, c'est un texte que nous connaissons. Juste avant, Jésus va faire un miracle avec un lépreux. Et par rapport à cela, alors qu'il avait commandé aux lépreux de ne pas faire savoir ce qui s'était passé, de suivre la loi, le lépreux ne va pas pouvoir se retenir, va communiquer ce que Jésus a fait. Et je pense qu'on aurait fait de même. Toujours est-il que Jésus ne pouvait plus circuler, ne pouvait plus aller dans les lieux publics. Et c'est pour cela que le début de ce chapitre 2, nous lisons, quelques jours après cela, alors que les foules voulaient le voir parce qu'il y avait l'attrait du surnaturel, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. Et Capernaum, c'est quand même une ville importante. C'est quand même une ville, un endroit significatif. On va le voir, la scène se situe dans une maison, et on va voir comment se déroule, qu'est-ce qui s'est passé. Mais au travers de tout cela, comme dans toute la parole de Dieu, il y a toujours ce face-à-face de l'homme avec Dieu, de nous-mêmes, de qu'est-ce que moi je fais par rapport à cette lecture, si c'est la première fois qu'on l'a entendue, si c'est la dixième fois, mais qu'est-ce que Dieu veut me dire ? Parce que si Jésus revient à Capernaum, c'est pas au hasard. Vous comprenez bien. Dans la parole, nous lisons et nous le voyons dire, Jésus, à plusieurs reprises, que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, il le dit, il le fait parce que c'est son Père qui lui a dit de le faire et de le dire. Il ne fait pas les choses au hasard. Et si Jésus, alors qu'il a déjà fait des miracles, alors qu'on sait qu'il est venu pour accomplir une mission, prend la peine d'aller à Capernaum dans cette maison, c'est parce que quand même, il voulait proclamer, peut-être rajouter, peut-être rappeler au peuple, peut-être rappeler pour une personne cet après-midi, cette vérité, ce que l'Évangile nous dit. Peut-être pour dire à une personne, mais c'est soit les ténèbres, soit la lumière. Pour les personnes qui étaient là, on peut penser aisément, surtout qu'il y avait des scribes, il y avait des personnes qui étaient éduquées d'une manière religieuse, alors que peut-être ce jour-là, ils étaient venus pour écouter Jésus, non pas qu'ils s'intéressaient à lui, mais peut-être plus pour essayer de le piéger. Lorsqu'ils se sont retrouvés dans cette maison, la foule qui était dans cette maison savait sûrement ce que le prophète Ésaïe avait dit. Il y a un temps où les personnes vont pouvoir connaître. Il y a une période, des temps marqués, pour reprendre l'expression biblique, où les hommes vont pouvoir connaître cette réalité. C'est si vous êtes dans les ténèbres, si vous êtes sans Dieu, si vous êtes éloigné, ou même si vous êtes proche de Dieu, mais qu'il n'est pas dans votre cœur, ces temps-là peuvent être transformés, changés par la puissance de l'œuvre de Jésus-Christ. Ceux qui étaient dans les ténèbres peuvent passer à la lumière. Et Jésus nous dit, la Bible nous dit, qu'il prêchait. Est-ce qu'il parlait du prophète Ésaïe ? On ne sait pas. On aurait aimé savoir quand même. Le Saint-Esprit n'a pas jugé bon de nous donner les détails de sa prédication, mais quand même, on l'appellera admirable conseiller. On l'appellera Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Et cette personne qui est Dieu puissant, cette personne qui est l'admirable, le conseiller suprême, c'est quelqu'un qui se retrouve dans une maison parce que Dieu nous aime et il voulait que nous puissions savoir, connaître, comprendre la vérité. Jésus est accessible, vous savez. Si ce jour-là, il était dans la maison, ce n'était pas simplement pour dire « mais fermez les portes de la maison, il faut que je reste juste avec mes disciples. » Il faut que je reste juste avec certaines personnes. Ce n'est pas pour ça que Jésus est venu dans le monde. Jésus n'est pas venu pour rester cloisonné, pour regarder au loin les hommes, les femmes, pour regarder l'humanité en disant « mais voilà, vous êtes que dans les ténèbres ». Ce n'est pas ça l'Évangile. Mais ce jour-là, alors que Jésus était là, tout était ouvert, la foule était là. Mais tout était ouvert. Il y a comme ce message qui était adressé. Jésus, on sait où il est. Jésus, on sait où le trouver. Jésus, vous pouvez venir le voir. Jésus ne s'est pas caché, n'a pas pris des chemins de détour. Jésus n'est pas resté toujours éloigné des autres. Et alors peut-être que quelques-uns, cet après-midi, ont reçu un certain enseignement religieux. biblique par rapport à certaines choses. Peut-être vous pensez que Dieu est lointain. Peut-être vous vous dites, mais oui, admirable conseiller, c'est vrai, Dieu est puissant, c'est vrai, il est intelligent, mais il n'est pas avec moi, il ne se soucie pas de moi. C'est aussi celui qui est venu s'appeler Prince de la Paix. C'est aussi celui qui est venu pour dire, mais la lumière, c'est moi qui peux la donner, c'est moi qui veux la donner. La paix, c'est moi qui peux la donner. Et vous savez où me trouver, vous savez où aller. Vous savez quelle direction peut-être prendre. Dans un autre évangile, Jésus-Christ pourra faire cette proclamation extraordinaire, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Ce jour-là, on aurait pu appliquer, et peut-être ça peut surprendre quelques personnes, parce que quand même il y a des indications, la foule était là, mais finalement, le fait que Jésus soit accessible, ça a empêché d'autres de venir. Et pourtant, à un autre moment, Jésus pourra dire « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » On peut se poser des questions. Parce que, au premier abord, ces personnes qui ont amené cet homme paralytique lui-même aurait pu dire « Mais moi, je ne peux pas atteindre Jésus-Christ. Je ne peux pas y aller. » Ce qui nous fait nous poser une question essentielle cet après-midi, parce que si ce qui est sûr, c'est que Jésus, Dieu, reste accessible, s'il est évident que celui qui est venu, la Bible nous dit qu'il s'est dépouillé, que c'est Dieu lui-même qui s'est fait homme pour venir dans ce monde, s'il a voulu avoir une proximité avec nous, si nous pouvons dire cet après-midi, nous savons dans quelle maison est Jésus-Christ, nous savons où le trouver en lisant sa parole, en venant à l'église, en l'invoquant chez nous, en priant, parce que la Bible nous dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Si on sait où le trouver, il y a quand même des éléments dans notre vie qui peuvent nous empêcher d'y accéder. Il y a des choses qui peuvent être une séparation finalement entre soi, entre nous et Jésus-Christ. Et c'est entre autres, puisque la Bible traite beaucoup de ce sujet, entre autres ce qui nous est appris dans ce texte. Il y a ce verset qui vient ajouter peut-être une précision. On peut le comprendre, on peut se dire, mais c'est normal. Il y avait tellement de personnes qu'on ne pouvait pas atteindre Jésus-Christ. C'est vrai. On aurait pu dire, cet après-midi, si la salle était remplie, si à l'entrée, dans le hall d'entrée, il y avait du monde, vous ne pouvez pas venir rentrer dans l'église, c'est vrai. Maintenant, d'une manière spirituelle, puisque je le répète, et ce serait une aberration de dire que Jésus veut volontairement se cacher, cet après-midi, ça serait même anti-biblique de dire que Jésus n'a jamais voulu se laisser trouver par quelqu'un. Nous l'avons chanté, Lucas nous l'a rappelé, c'est ce que la Bible nous dit, celui qui cherche trouve, on ouvre à celui qui frappe. Il peut néanmoins avoir des choses dans notre vie, telle la foule qui nous empêche finalement de rencontrer Jésus-Christ. Ce jour-là, beaucoup de personnes étaient présentes. Je ne sais pas ce que beaucoup signifie, 10, 20, 50 personnes, 60 personnes. Ce jour-là, même si on peut dire 80 personnes, peu importe, même s'il y avait 50 personnes de présentes, une seule réellement a pu rencontrer Jésus-Christ. Il n'est pas question de proximité physique, il n'est pas question de réflexion, d'analyse, il n'est pas question de devenir des grands théologiens pour rencontrer Jésus-Christ. Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'accéder à Jésus? La Bible parle de ces sujets. La foule, mais peut-être nos pensées. Ah non, c'est pas pour moi. Ah non, vous savez, Jésus, c'est peut-être bien pour ceux qui sont faibles, ceux qui sont ceux-ci, ceux qui sont toujours découragés, ceux qui cherchent un but à leur existence, mais moi, vous savez, j'ai pas besoin de ça. Peut-être l'incrédulité. Ah non, je ne crois pas que Jésus puisse faire quelque chose. Oui, peut-être que le monde est là, la nature est merveilleuse, mais c'est le hasard. C'est le hasard. Bien sûr, le péché. Le péché. Non, non, Dieu n'est pas lointain. Non, son oreille est toujours attentive. Dieu ne se bouche pas l'oreille à notre souffrance, ne ferme pas les yeux à notre condition, mais il y a cependant quelque chose qui crée une séparation. Il y a ce texte, on pourrait faire le parallèle, c'est dans Luc 24, au verset 16. Vous savez, ces disciples d'Emmaüs qui partaient de Jérusalem déçus, découragés, ils attendaient un leader politique, ils attendaient quelqu'un qui allait pouvoir prendre le pouvoir, qui allait renverser la domination des Romains. Rien ne se passe comme il avait espéré, comme il avait pensé. Ils s'en vont tout tristes. Jésus vient, fait un bout de chemin avec eux. Jésus était tout près ce jour-là. On ne peut pas dire que pour eux c'était un problème de foule, on ne peut pas dire que pour eux c'était quelque chose qui était là, qui éloignait physiquement Jésus-Christ, parce qu'ils ont marché côte à côte avec Jésus-Christ. Beaucoup de personnes aujourd'hui, et peut-être c'est le cas de quelques amis cet après-midi, ont une connaissance intellectuelle de Jésus-Christ, viennent à l'église pendant une partie de leur existence, ont expérimenté certaines choses, ont entendu des prédications, ont lu des parties de la parole de Dieu, et pourtant Jésus n'est pas dans leur cœur. Et la Bible nous dit, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il peut y avoir beaucoup de choses qui nous empêchent d'atteindre Jésus-Christ. Si j'arrêtais le message maintenant, ça serait quand même triste, parce que ce n'est pas ainsi une fatalité. Ce n'est pas écrit qu'on peut voir Jésus de loin sans jamais l'expérimenter. Ce n'est pas écrit qu'on peut marcher avec Jésus sans que nos yeux ne puissent le reconnaître à un moment donné. Et c'est ce que vont faire ces amis qui vont peut-être nous ouvrir une voie, peut-être nous ouvrir cette porte pour que nous puissions comprendre ce que nous, dans notre vie, il faut qu'on puisse faire et expérimenter. Parce que, et je le répète volontairement cet après-midi, parce que vous pouvez multiplier les réunions, multiplier les lectures bibliques, multiplier ceci, multiplier cela, voir, passer toute une vie en disant « mais j'ai vu Jésus dans tel domaine, j'ai vu Jésus dans la vie de tel homme, de telle femme, je l'ai vu pour ce chrétien, il a béni, je l'ai vu pour telle personne, il a guéri de sa maladie, je l'ai vu pour tel jeune, on peut le voir. » mais sans jamais l'expérimenter pour soi. Ce que ces hommes vont faire, c'est ce que peut-être nous devons faire dans notre propre cœur. La foule était là, ils ne pouvaient pas rentrer, on le sait, on l'a lu, je l'ai commenté, on connaît cette histoire. Ils auraient pu se dire, mais tant pis, ça sera pour demain, tant pis, ça sera pour un autre jour, un autre moment. Ils auraient pu baisser les bras, ils auraient pu se démoraliser, mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont compris qu'il y avait autre chose à faire. Il faut que vous puissiez comprendre cet après-midi qu'il y a plus à expérimenter, que nous pouvons vivre des choses, mais qu'il faut quand même que nous faisions ce pas de la foi, et c'est ce que ces amis ont fait. Ils sont montés sur le toit, ils ont commencé à découvrir une partie du toit. Ils ont commencé à faire un trou dans le toit. Il faut que dans notre cœur, dans votre cœur, il faut que vous puissiez commencer à faire un chemin pour que la parole de Dieu puisse y accéder. Il faut que vous puissiez ouvrir votre cœur à la parole de Dieu. Il faut que vous ayez cette foi de dire, mais même si je ne comprends pas tout, même si je ne vois pas ce que moi j'ai envie de voir, je sais néanmoins qu'il y a cette réalité, c'est que je ne veux pas rester toujours assis dans les ténèbres, je ne veux pas rester toujours dans la vallée de l'ombre de la mort. Tout le monde veut la vie, tout le monde veut la lumière, tout le monde veut la bénédiction. Tout le monde veut expérimenter quelque chose de surnaturel dans sa vie. Parce qu'on aspire à ça, parce qu'on a soif, parce qu'on veut pouvoir le dire. Ah, mais vous savez, moi j'ai vécu ceci, moi j'ai vécu cela. Mais cet après-midi, qui va avoir l'audace? Qui va avoir peut-être la pertinence de dire, mais Seigneur, pour une fois, je veux t'ouvrir mon cœur. Pour une fois, je veux être vrai devant toi. Pour une fois, je ne veux pas laisser les strates. Vous savez, les toits de l'époque, c'était fait de branches, de joncs, de palmiers, de boue. Et ils ont dû retirer tout cela pour voir Jésus, pour qu'il y ait ce chemin. Qui cet après-midi va enfin capituler, va enfin comprendre que ce n'est pas en nous qu'il y a les capacités, cette force, une quelconque possibilité pour aspirer à un bonheur qui n'est que peut-être qu'une chimère dans la tête de certains. Qui va dire, mais Seigneur, mon cœur est mauvais. Seigneur, je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre ma vie, viens. Prends toute la place. Fais quelque chose pour moi. Interviens dans ma vie. Seigneur, je suis paralysé. Spirituellement, je suis paralysé. Physiquement, j'ai peur de tout. Je vis dans l'angoisse. Seigneur, vois mon cœur. Et ce que ses amis vont faire, c'est cela. Ils vont descendre. On a lu ensemble cette histoire. Cet homme va descendre et lorsque Jésus va le voir, c'est comme cet amour qui jaillit du Père. Il ne lui a pas dit, écoute, la prochaine fois, passe par la porte. Je dis ça, ça peut être pris sur le ton de l'humour, mais vous savez, combien de personnes ne comprennent pas l'amour de Dieu? Combien de personnes ont peur que celui qui est mort sur la croix leur fasse une réflexion? Combien de personnes ont peur d'ouvrir leur cœur au Sauveur parce qu'ils se disent mais j'ai peur, j'ai pas envie d'avoir ceci ou cela. Le paralytique, lui, n'a pas dit, mais Seigneur, donne-moi des explications sur ce qui s'est passé. Le paralytique ne s'est pas adressé à la foule en disant « Mais quand même, j'étais prioritaire pour rentrer. Vous auriez dû me laisser la place. » Ce qui était important à ce moment-ci de l'histoire, c'est ce que nous pouvons tous vivre. C'est que lorsque nous rencontrons Jésus-Christ, la foule n'a plus d'importance, le monde ne compte plus, nos souffrances ne comptent plus, notre passé ne compte plus, ce qui a été brisé en nous n'a plus d'importance. Il y a cette douce voix de Christ qui retentit, tes péchés sont pardonnés. Cette douce voix de Christ qui est là, qui nous fait accepter, comprendre que finalement, on n'a pas à demander des comptes à Dieu. Finalement, on ne lui doit rien. Finalement, c'est lui qui nous a tout donné. Et je l'ai dit tout à l'heure, et je le répète, la foule a assisté à ça. On pourrait dire aujourd'hui, l'Église assiste à ça. Une personne qui voit sa vie changer en un clin d'œil. Lorsque cette personne paralysée a entendu « tes péchés te sont pardonnés », il ne s'est pas adressé à Jésus-Christ en disant « mais écoute, je ne suis pas venu pour ça, je suis venu pour la guérison ». Cet homme avait compris le plus important. Ne nous habituons pas à avoir des conversions. Ne regardez pas les autres se convertir. Ne regardez pas les autres être bénis de Dieu. Ne regardez pas les autres entendre cette voix. Mon fils, mon enfant, tes péchés, ma fille, tes péchés te sont pardonnés. Sans jamais recevoir cette phrase pour soi-même. Ne partez pas de ce lieu en disant, ah mais c'est bien, telle personne s'est donnée à Christ. Ne partez pas en disant, mais tiens, cette personne s'est avancée, c'est bien, il a bien fait de s'avancer parce qu'il en avait besoin. Ah parce que quand je l'ai vu rentrer dans l'église, j'ai ressenti qu'il en avait besoin. Mais peut-être que vous devez partir de ce lieu pour vous-même. en recevant cette phrase, en recevant cet amour de Christ, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Parce que c'est pour cela que Christ est venu dans ce monde. C'est pour que nous puissions recevoir le pardon de nos péchés. Lorsque nous chantons « De la croix, la grâce coule », c'est une réalité extraordinaire où nous pouvons vivre ce que nous avons lu dans Matthieu, ce que le prophète Ésaïe avait prophétisé des centaines et des centaines d'années avant. Il y a un peuple qui était dans les ténèbres, mais il peut passer dans les lumières, dans la lumière, il peut passer dans la vie, parce que Jésus-Christ est venu à accepter d'être battu, à accepter la croix, à accepter de voir sa vie, ses os brisés, pour que nous puissions recevoir cet amour. Les personnes ne vont pas comprendre. Je terminerai juste avec cela, parce que finalement, personne ne va comprendre. Ce paralytique, lui, va avancer. Il est rentré allongé sur un lit, il va sortir en glorifiant, debout, en glorifiant son Seigneur. Vous savez, la guérison, ce n'est pas obligatoire. Dieu ne nous doit rien. Cet homme va être béni, il va être sauvé, il va être guéri. Et je terminerai juste avec, encore avec deux pensées, mais le verset 12, je le lis pour vous. Nous pouvons lire, et à l'instant il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. Vous savez, Jésus-Christ va... Un autre passage, et je ne sais pas, peut-être vous l'avez déjà fait, ce parallèle extraordinaire, dans l'évangile de Jean, où il va se présenter comme étant le bon berger, il va dire « Je suis la porte ». Et voilà ce qu'il va dire « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. » Ça ne vous a jamais surpris ça ? « Il entrera et il sortira. » Et il trouvera des pâturages. Cet homme est entré dans cette maison. Alors, effectivement, il n'est pas passé par la porte, mais on comprend, vous comprenez que c'est Jésus. Et la Bible rajoute qu'il est sorti en glorifiant. Il est sorti en ayant une nouvelle vie. En vivant ce que la parole de Dieu nous dit. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Bon nombre d'entre nous, cet après-midi, l'avons vécu. Et c'est ce que tous nous pouvons vivre. Il se leva et il sortit. Il y a une seule porte. Frères, sœurs, mes amis, cet après-midi, il y a une seule porte par laquelle nous devons passer, entrer et sortir pour avoir de bons pâturages, pour avoir la vie et la vie en abondance. Je terminerai par cette question, parce que je l'ai dit en introduction, Capernaum, c'était un endroit significatif, mais Jésus va quand même prononcer une sentence un peu difficile, qui peut sembler dure. C'est dans, on pourrait le lire ensemble, si vous voulez bien, c'est dans Matthieu chapitre 11 et le verset 23. Le début de ce verset 23, c'est une question. Et j'aimerais vous dire que vous qui avez accepté Jésus-Christ, qui avez ouvert votre cœur pour qu'il puisse intervenir, vous qui vous êtes repenti, qui êtes né de nouveau, vous pouvez remplacer Capernaum par votre prénom. Et vous pouvez dire oui, répondre oui à cette question. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Serons-nous enlevés jusqu'au ciel, nous qui avons fait l'expérience de la nouvelle naissance? Oui. Mais pour Capernaum, et c'est peut-être ce qui est inquiétant pour certaines personnes, pour vous cet après-midi qui voulez repartir, vous êtes libre, Dieu nous laisse le choix. Mais il y a la réponse de Dieu pour Capernaum, Et plaise à Dieu que cet après-midi, ça ne soit pas notre réponse lorsque nous sortirons de ce lieu. Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Il y a les ténèbres, il y a la lumière. On est élevé au ciel avec notre Dieu. On est dans le séjour des morts, dans l'enfer pour l'éternité. On ne peut pas être entre deux. On ne peut pas être entre deux. Que ce nom ne soit pas, ne vous caractérise pas en sortant de ce lieu. C'est sérieux. C'est sérieux. La volonté de Dieu, et c'est pour ça que Jésus est venu, c'est pour que nous puissions répondre oui. Et toi, seras-tu pris lorsque Jésus va revenir? On pourrait prier un instant? Notre Dieu, merci. Merci pour ta parole, pour ta délicatesse, ton amour, pour ta patience à notre égard. Merci parce que tu veux encore, cet après-midi, prononcer cette parole. Tes péchés te sont pardonnés. Seigneur, tu es venu dans ce monde pour cela. Tu as voulu et tu veux être encore accessible. La porte est ouverte. Tu es là, nous savons où te trouver. Mon Dieu, je veux te prier si dans ce lieu il y a une personne qui a toujours fermé son cœur, qu'il puisse ouvrir cet après-midi son cœur pour te rencontrer, qu'il puisse enlever ce qui l'empêche, l'incrédulité, l'orgueil, mon Dieu, le péché bien évidemment. Père, s'il te plaît, aie compassion et pitié, que nous puissions voir des personnes répondre oui à cette question. Si tu leur posais la question, s'ils seraient enlevés. Mon Dieu, s'il te plaît, œuvre cet après-midi. Merci, merci pour les possibilités qu'il y a dans ton beau nom, Jésus-Christ. Merci pour l'œuvre de la croix. Reçois notre louange, pour cela notre adoration, au siècle des siècles. Amen.